VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 10h en temps universel. En RDC, des policiers et des militaires congolais ont réprimé aujourd'hui à coups de gaz lacrymogène et des tirs de sommation une manifestation à Beni au dernier jour du deuil national en mémoire de plusieurs dizaines de civils tués par des rebelles ougandais le week-end dernier. Des drapeaux du parti présidentiel, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ont été brûlés, tout comme au grand marché de Beni, une effigie du président congolais Joseph Kabila. Le territoire de Beni et ses environs sont en proie à une série de massacres, principalement à l'arme blanche, ayant causé la mort de plus de 650 personnes depuis octobre 2014. À 10 jours de l'élection présidentielle, le chef de l'État sortant au Gabon, Ali Bongo Ondimba, a dénoncé des appels à la discorde, à la violence. Dans un discours prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée aujourd'hui, M. Bongo est candidat à un nouveau septennat face à 11 autres candidats, dont un seul qui semble en mesure de l'inquiéter, Jean Ping. L'ex-président de la Commission de l'Union africaine a bénéficié mardi du désistement de 2 autres poids lourds. Quelques 628 000 électeurs sont appelés à retirer leur carte d'ici le scrutin à un tour prévu le 27 août prochain. En Afrique du Sud, l'ANC tente de recoller les morceaux après sa défaite sans précédent aux élections du 3 août. Le parti de Nelson Mandela a perdu la majorité dans des centres urbains clés, cédant ainsi du terrain à l'opposition. Pour l'analyste sud-africain André Thomas Hausen, le parti du président Zuma paye le prix de la corruption généralisée.
Il y a eu trop de corruption et trop de pertes de bons services. Il y a peut-être 2/3 des municipalités qui sont dans un état technique de faillite à cause de la corruption. Et en fonction de ça, il n'y a plus de livraison fiable de l'eau potable, de l'électricité, de sécurité, de services de santé et même de l'éducation. Alors pour Zuma, de refaire cette discipline dans son administration, c'est une grande tâche. Il lui reste à peine un an, peut-être un an et demi, jusqu'aux prochaines élections générales. Et un peu la guerre va continuer parce qu'il y aura des gens plus jeunes dans le parti qui trouvent qu'il serait mieux qu'un nouveau candidat soit trouvé plutôt bientôt.
André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Une victoire des forces du gouvernement d'union libyen contre le groupe État islamique à Sirte ne va pas écarter d'un coup la menace djihadiste en Libye et pourrait même ouvrir une phase encore plus violente. C'est ce qu'estiment des analystes. Ils constatent que la légitimité du gouvernement d'union reste contestée par un exécutif parallèle dans l'est du pays. En plus, les services publics sont défaillants. Pénurie de liquidités, mais surtout insécurité, ont fini par désabuser les Libyens qui l'avaient soutenu au départ. Une victoire à Sirte devrait lui permettre d'obtenir davantage de soutien international pour redresser l'économie, mais la menace de l'État islamique ne va pas disparaître d'un coup.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a appelé mardi les Afro-Américains à le soutenir, accusant les démocrates de les avoir trahis. Les Noirs votent traditionnellement plus volontiers pour les démocrates et Hillary Clinton a une bonne avance sur son adversaire républicain dans la course à la présidentielle du 8 novembre. À la traîne dans les sondages, il semble que Donald Trump, qui s'est appuyé jusqu'ici sur un électorat blanc, prenne un tournant dans sa campagne avec cette tentative de séduction des minorités. La Turquie va libérer 38 000 prisonniers condamnés pour des faits s'étant produits avant le 1er juillet, donc avant le putsch raté de la mi-juillet, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Justice, Beki Bozdag, apparemment pour désengorger les prisons turques. La mesure exclut de fait toute personne incarcérée pour son implication dans le coup d'État raté du 15 juillet que Ankara a accusé l'ex-imam Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis, d'avoir ourdi. Et puis l'utilisation par la Russie d'une base iranienne pour des raids aériens en Syrie est malheureuse, mais pas surprenante, a réagi le département d'État américain. Washington est en train d'évaluer l'étendue de la coopération entre Moscou et Téhéran, a déclaré Mark Turner, le porte-parole du département d'État. Selon lui, le recours de Moscou aux bases iraniennes n'empêchera pas nécessairement les États-Unis de parvenir à un accord avec la Russie pour combattre le groupe État islamique en Syrie. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point de l'actualité sur vos stations préférées. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.